Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Anne-Isabelle Etienvre avec nous sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Anne-Isabelle.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la recherche fondamentale au CEA. Et on va découvrir avec vous cette innovation incroyable dont vous avez annoncé les avancées il y a quelques jours à peine. Hein. Et merci d'être avec nous pour la commenter en chair en os parce que c'est vraiment impressionnant. On va parler d'ISE, qui est l'IRM la plus puissante au monde jamais conçue, qui est l'IRM de la démesure, qui pèse je sais pas combien de centaines de tonnes, qui fait 5 mètres de haut, je crois, enfin quelque chose de
dingue. C'est ça, tout à fait.
Expliquez-nous un petit peu à quoi ça ressemble, et après on rentrera évidemment dans l'aspect technologique.
Alors en fait, c'est une IRM qui est née dans l'idée il y a quasiment 20 ans, avec l'objectif vraiment de repousser les limites de la connaissance que l'on avait à l'époque du cerveau. Et pour cela, il est important de pouvoir avoir un champ magnétique qui est vraiment le cœur de l'IRM, le plus élevé possible, pour pouvoir voir le cerveau avec une précision la plus grande possible. Et donc la prouesse technologique, eh bien, c'est cela, c'est atteindre le champ le plus puissant au monde.
Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette innovation technologique à la télé, mais on comprend, en fait, l'IRM c'est quelque chose de magique quand même. C'est-à-dire qu'on arrive à voir l'intérieur du corps sans l'abîmer, c'est dingue. Et tout ça c'est grâce au champ électromagnétique, c'est ça ?
Absolument.
Est-ce qu'on peut l'expliquer simplement comment ça marche ?
Alors je vais essayer. Donc l'IRM, effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est une façon de faire de l'imagerie de façon strictement non-invasive. Et donc évidemment c'est très précieux. Et en fait on utilise le fait que notre corps est fait d'atomes et que donc dans ces atomes il y a des noyaux et que donc avec un champ magnétique extérieur qui est celui que génère l'IRM, eh bien ces noyaux vont s'aligner sur ce champ magnétique et suivant la façon qu'ils vont avoir d'être excités par ce champ magnétique, eh bien on arrive à avoir une reconstitution en trois dimensions de ce qu'on a à l'intérieur du corps.
Sans aucune conséquence pour la santé ?
Non, sans aucune conséquence pour la santé. C'est étudié de très très près, très soigneusement. Et pour cette IRM qui est donc à un très haut champ magnétique, oui, jamais atteint, naturellement, nous avons regardé extrêmement attentivement et avec un protocole très rigoureux tel que préconisé par nos autorités de santé, l'impact que pourraient avoir ces champs extrêmement intenses sur la santé. Et nos 20 volontaires sains, je vous rassure, vont très bien.
C'est bien, mais ça présage en fait un avenir radieux à cette technologie que vous avez mise en place. Parce que les IRM, ça existe depuis des années, évidemment. C'est une technologie qui a révolutionné l'imagerie, qui est inoffensive, ce qui n'est pas le cas de la radio. Hein. La radio, petit à petit, on prend des rayons, hein, en quelque sorte. Donc, ça a ses avantages. Ce qu'il y a d'incroyable, là, c'est la puissance, vous le disiez. On est à 11,7 Tesla. Alors qu'une IRM traditionnelle, c'est entre 3 et 7, c'est ça ?
Dans les hôpitaux, c'est entre 1,5 et 3.
Ah, 1,5 et 3.
Oui, donc, traditionnellement.
Donc on est là, vous êtes à 4 fois la puissance,
oui, hein,
au maximum. Et donc on arrive, en fait on passe de la télé de cathodique qu'on avait à la télé 4K, quoi, finalement. Pour que je résume un petit peu le résultat de l'image que vous avez du cerveau.
Oui, on arrive en fait avec un temps d'acquisition extrêmement bref, en 4 minutes, on arrive à avoir des précisions sur le cerveau qui sont inégalées avec un temps d'acquisition aussi court. Et donc c'est extrêmement prometteur puisque ça permet d'imaginer, de pouvoir étudier le cerveau, son métabolisme, son fonctionnement pour l'apprentissage, mais aussi poser des diagnostics précoces et mieux comprendre un certain nombre de maladies extrêmement impactantes pour la société.
Parce que d'après ce que j'ai compris, je me suis un petit peu renseigné, visiblement on pourrait avoir cette qualité d'image avec des IRM traditionnel, moins puissant, mais il faudrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et comme il ne faut surtout pas bouger, ou alors bouger le moins possible pour avoir des résultats très précis, c'est quasiment impossible.
Absolument, vous avez parfaitement bien compris. On peut, avec un temps infini, ou un temps en tout cas important, plusieurs
parce
heures...
Parce qu'un temps infini, ça risque d'être compliqué.
Plusieurs heures, on peut arriver à atteindre des niveaux de précision semblables ou similaires, mais c'est assez théorique, parce que comme vous le disiez très justement, pour cela, il faudrait avoir une stricte immobilité pendant plusieurs heures, ce qui est évidemment extrêmement difficile, et le moindre mouvement brouille l'image. Donc on n'arriverait pas à avoir une image d'une telle précision, même avec un temps très long.
Alors que 4 minutes, c'est jouable.
4 minutes, c'est tout à fait jouable et on l'a vu avec nos 20 volontaires sains.
Alors, le résultat, on l'a vu, hein, ce sont des images du cerveau inédites, d'une précision incroyable. Encore une analogie, c'est un peu le Hubble, vous savez, ce...
Pour l'univers, oui.
Voilà, c'est ça, hein, cet appareil qui permettait de voir l'espace comme jamais, et avec une précision incroyable. Médicalement, c'est une vraie révolution qui arrive, là.
Alors, on est vraiment à la fois, c'est un aboutissement aujourd'hui, puisque donc on a la certitude que notre appareil fonctionne aussi bien qu'on l'avait rêvé il y a un certain temps. Mais c'est aussi le début de quelque chose, puisque maintenant commence vraiment la recherche en neurosciences avec cet appareil dont on sait qu'il atteint les caractéristiques que l'on avait rêvées. Et donc, on va pouvoir maintenant vraiment démarrer la recherche avec l'ensemble de nos partenaires académiques, mais également dans le milieu hospitalier, pour vraiment mieux comprendre le cerveau sous toutes ses formes.
Est-ce que cet appareil va pouvoir soigner les gens ? Quand je dis soigner, c'est détecter des maladies parce qu'ils en ont besoin. Est-ce qu'il va être mis à la disposition du public ?
Alors, dans un premier temps, là, vraiment, dans les prochains mois ou les toutes prochaines années, on va vraiment continuer à démarrer ce programme de recherche pour vraiment caractériser son fonctionnement, mettre au point toutes les méthodes d'analyse des images que l'on prend avec l'IRM.
Il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça ?
Encore un an, encore D'accord. une bonne année, pour vraiment bien mettre au point l'ensemble de la prise d'images, pour okay. vraiment avoir des images aussi précises et tirer le maximum du potentiel de cet IRM un petit peu hors norme.
Ça veut dire que les images que vous nous montrez là, dans un an, elles seront encore meilleures ?
On peut espérer qu'elles soient encore meilleures. On va okay. vraiment essayer d'en tirer vraiment le maximum par les techniques d'imagerie. Également en utilisant l'IA pour essayer aussi de tirer encore le maximum de ces images avec un temps d'acquisition réduit sans dégrader la qualité de l'image. Et puis quand on aura fait tout cela, donc vraiment on aura optimisé la prise d'image, et bien ensuite on pourra passer à une seconde étape avec de nouveaux protocoles en lien avec les autorités de santé pour en effet pouvoir étudier aussi des pathologies.
J'imagine que vous travaillez de concert avec les neurochirurgiens, ils doivent être et abasourdi par cette innovation, non ? Parce que franchement, pour eux, ça va changer plein de choses.
Et oui, il y a un intérêt évidemment très fort et on est très heureux de travailler évidemment en lien étroit avec les établissements de santé. C'est déjà le cas aujourd'hui dans notre laboratoire avec les IRM déjà en fonctionnement et ça va être encore plus vrai avec cet IRM-là. Et c'est évidemment extrêmement important qu'on ait ce continuum entre la recherche très amont et puis vraiment la recherche clinique dans les hôpitaux, puisque c'est eux aussi qui expriment le besoin et qui nous guide aussi dans la recherche que l'on fait.
Alors, évidemment, à chaque fois que vous parlez de cet IRM, vous focalisez sur le cerveau, alors que l'IRM scanne notre corps entier. Ça a un sens d'imaginer cet IRM ultra puissante pour d'autres parties de notre corps ?
Alors, cet IRM...
Parce que le cerveau, évidemment, c'est le plus spectaculaire, c'est l'organe le plus complexe du corps humain, mais est-ce que ça aurait un intérêt de faire une IRM avec autant de précision pour le foie, les intestins, l'estomac, enfin, je sais pas.
Alors, cet IRM, potentiellement, est conçu pour être corps entier. Donc, l'intégralité du corps D'accord. pourrait rentrer dans cet IRM. Il a vraiment été conçu pour les neurosciences et pour le cerveau. Donc, l'intégralité des appareils de cet IRM est vraiment aujourd'hui pour l'étude du cerveau.
Petite question concernant la puissance donc démesurée de cet appareil. Est-ce que c'est compliqué à fabriquer par rapport à une IRM traditionnelle ? Et deuxièmement, en termes d'énergie, est-ce que ça consomme énormément d'énergie ? Parce qu'on parle de Tesla, et dès qu'on évoque Tesla, c'est une unité de mesure qui est liée à l'électricité. Qu'est-ce que ça donne, en fait, cet appareil ?
Alors, bon, pourquoi ça a été une prouesse technologique ? C'est parce que, donc, pour atteindre ces champs magnétiques extrêmement intenses, avec des contraintes en termes d'homogénéité du champ sur l'intégralité de l'appareil, eh bien, il a fallu mobiliser une technologie, celle des aimants supraconducteurs, qui est développé aussi au sein du CEA pour d'autres disciplines comme la physique des particules ou bien la fusion pour l'énergie. Et donc cette technologie des aimants supraconducteurs, elle est très spécifique et arriver à construire un IRM avec cette technologie-là était réellement une prouesse que l'on a pu réaliser grâce à ce savoir-faire et grâce à un partenariat industriel au long cours avec une industrie, Alstom en l'occurrence, qui savait vraiment réaliser ce type d'instrumentation.
En termes de consommation énergétique.
En termes de consommation énergétique. Donc, c'est un élément supraconducteur. Et donc, ça nécessite l'utilisation donc, de la supraconductivité, et donc la cryogénie. Et donc, la consommation électrique, c'est vraiment celle de la cryogénie. Ensuite, on est extrêmement vigilant à cela. Et donc, la cryogénie repose sur l'utilisation d'hélium. Et donc, on a fait en sorte que l'hélium soit utilisé une fois pour toutes et reste en circuit fermé.
D'accord.
Et donc, tout au long de la vie de l'aimant.
Très bien. Alors, tout à l'heure, on a évoqué brièvement les dimensions hors normes de cet appareil. Rappelez-nous quelques chiffres. Hein.
Alors, 132 tonnes, 5 mètres de long, 5 mètres de large.
Est-ce qu'on pourrait miniaturiser tout ça, à votre avis, dans les années qui viennent?
Alors,
pour qu'après, je ne sais pas, moi, ça puisse équiper les hôpitaux dans quelques années. Est-ce que vous avez déjà une idée, vous projetez sur une sortie commerciale, en tout cas une multiplication de ce type d'appareil?
Alors, comme la recherche s'inscrit toujours dans un temps long, on réfléchit déjà à la prochaine génération d'aimants de ce style. Et donc, on a un programme de recherche assez ambitieux qui vient d'être lancé et qui consiste à mettre au point des aimants supraconducteurs avec de nouveaux matériaux qu'on appelle à haute température critique et qui devraient permettre ces matériaux d'atteindre en fait des champs magnétiques au moins aussi importants voire plus élevés à des températures comme leur nom l'indique plus facile à mettre en place et ensuite
à
maîtriser dans le temps. Et donc, ça pourrait permettre, ce type de matériaux supraconducteurs, s'ils sont vraiment mis au point à une échelle quasi industrielle, de miniaturiser en effet ce type d'IRM, voire même à terme d'atteindre des champs encore plus puissants.
Les champs encore plus puissants, ça aurait un intérêt de doubler la puissance. Aujourd'hui, vous arrivez donc à ce record de 11,7 Tesla. Demain, on monte à 25, 30. Ça aurait un intérêt médical, encore une fois, à votre avis?
Alors, je pense qu'il faut déjà, évidemment, regarder ce qu'on obtient à 11,7 Tesla avant de vous répondre, bien sûr, pour voir. On aborde vraiment un domaine dans les neurosciences.
Oui, inédit.
Inédit. Donc, je pense qu'il faut vraiment déjà arriver à exploiter pleinement ce potentiel scientifique pour voir vraiment quel est le champ magnétique suivant qui serait vraiment intéressant dans le domaine des neurosciences. Je sais que de par le monde, donc il n'y a pas d'autres IRM à 11,7 Tesla, mais il y a quelques projets d'IRM à 14 Tesla.
Merci beaucoup Anne-Isabelle Etienvre. Merci d'être passée par le plateau de Tech&Co pour nous expliquer en détail en fait cette innovation 100% française, cocorico, ça fait plaisir. Cette IRM, donc la plus puissante au monde, on dit un ou une?
Comme vous voulez.
On peut choisir, les deux sont valables. Depuis tout à l'heure, je me posais la question. Je me disais une parce que c'est imagerie, donc c'est plutôt une imagerie.
Plutôt une imagerie.
Merci beaucoup en tout cas d'être passé par le plateau de Tech&Co.